France Culture.
Ce livre a été encensé par toute la critique quand il est sorti au mois de juillet. Il est arrivé chez l'éditeur, dit la notice, qui l'accompagne sous forme d'un cahier scolaire à spirale cartonnée rouge, 100 pages couvertes d'une écriture ronde, penchée à gauche. C'est un ami qui, sans le dire à l'auteur, avait envoyé Écarlate à l'éditeur. Toute cette histoire serait sans importance si la publication de ce livre n'avait ménagé d'étonnantes surprises, rendant leur pouvoir de s'étonner et d'admirer les critiques.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Cela vous est peut-être déjà arrivé, être chez quelqu'un, prendre un livre dans sa bibliothèque, attiré par un titre, une couverture, l'épaisseur, le lire tout de go et faire là une découverte d'autant plus délicieuse qu'elle ne s'annonçait pas. C'est le type de rencontre que raconte Pierre Boisson au début de son livre. Il tire un jour Écarlate de Christine Pavlovska. Il a un bébé dans les bras, ne sait pas exactement le temps dont il dispose avant qu'elle ne se réveille et ça tombe bien, le livre est court et il est ardent. Paru en 1974 et remarqué par la critique, il est écrit autour d'un secret par une femme de 20 ans. En rencontrant amis, éditeurs, journalistes et famille, il mène l'enquête et dessine une existence. Il est notre invité en compagnie de Blandine Raquel qui signe la préface à la réédition de Écarlate. Ensuite, et comme chaque mardi, nous retrouvons Mathilde Wagman. Elle évoque aujourd'hui un roman pour adolescents sur le désir et le plaisir d'être désiré. On est ensemble pour une heure. Rouge, Écarlate. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Pierre Boisson.
Bonjour Marie-Richeux.
Votre livre Flamme, Volcan, Tempête, un portrait de Christine Pavlovska, apparu aux éditions du Sous-Sol. Soyez le bienvenu dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. Vous avez signé ou co-signé précédemment d'autres livres enquête sur la figure de Xavier Dupont de Ligonnès et à partir d'un accident du Malaysia Airlines qui était disparu mystérieusement des radars en 2014, pour le dire rapidement. Et bonjour Blandine Raquel.
Bonjour.
Vous signez la préface de la réédition de ce livre Écarlate qui reparaît opportunément aux mêmes éditions du Sous-Sol. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir.
Merci.
Et puis tout à l'heure, on entendra un extrait du nouveau disque du groupe collectif Catastrophe dont vous êtes l'une des voix, des performeuses, des plumes, des initiatrices qui vient de sortir un album.
Voilà.
Tout à fait. C'est donc une bonne occasion pour le découvrir tout à l'heure. Dans la préface que vous signez au texte, que vous avez dévoré, semble-t-il, en quelques heures, vous évoquez un texte qu'on pourra juger candide, mais que vous jugez surtout rare et qui semble écrit autour d'un secret. Ce secret, on y viendra peut-être. C'est un secret dont parle Pierre Boisson à la fin de son livre. Mais peut-être on va commencer par la découverte de ce texte. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, ce que ça vous fait et pourquoi est-ce que vous acceptez d'en signer la préface?
Je l'ai lu dans un jardin, j'avais d'autres choses à faire cet après-midi-là, et puis je l'ai commencé, je l'ai fini, je l'ai vraiment lu d'une traite. Alors quand on dit ça, on a toujours l'impression que c'est un peu folklorique et qu'on réinvente le souvenir, mais il se trouve que c'est vraiment ce qui a eu lieu, peut-être aussi parce qu'il faisait beau et j'étais dans un jardin, toujours est-il que...
Et que ça s'y prête, c'est
court.
Peu épais, ouais.
Voilà, c'est 100 pages. Et j'ai eu l'impression en fait qu'on me regardait dans les yeux, enfin que Christine Pavlovska me regardait dans les yeux et qu'elle m'obligeait déjà à finir ce texte et qu'elle m'obligeait à interroger comme elle interroge, enfin comme elle écrit depuis sa part la plus sauvage, la plus ardente, la plus vulnérable et la plus vive à la fois. Mmh. En retour, quand on la lit, on se questionne sur ce qu'on a fait de cette part-là, sur qu'est-ce qui a pu peut-être la recouvrir. C'est vraiment un livre qui réveille, je crois, oui, cette part ardente. La préface que j'ai écrite s'intitule Notre part la plus rouge, donc notre part écarlate, on pourrait dire. Mais c'est un livre dont la langue réveille. Et pourtant, c'est une langue qui est à la fois classique, c'est quand même un livre écrit à l'imparfait, de part en part, avec beaucoup d'images assez sophistiquées quand même, c'est une langue précise, avec beaucoup de points d'exclamation, une typographie, qu'on pourrait dire, classique, et en même temps, cette espèce de classicisme est au service d'une vraie, d'une colère, d'une rage, d'un refus, d'une violence. Et moi, c'est ce mélange des deux qui m'a saisi et qui m'a obligée à aller jusqu'au bout du texte.
Et le refus, justement, c'est précisément de ne pas vouloir en finir avec la violence de ses sentiments. C'est quelque chose qu'elle dit noir sur blanc. Mais elle commence aussi par dire qu'elle ne veut pas grandir, qu'elle ne veut pas rejoindre un monde des adultes où quelque chose se serait éteint. C'est ça aussi qui nous regarde ou qui vous regarde dans les yeux lors de la première lecture ?
Oui, c'est un texte qui questionne l'ordre. C'est un texte qui réveille aussi l'enfance en soi, en fait. L'enfance, mais je veux dire dans la part la plus sauvage de l'enfance. L'enfance et l'adolescence, c'est des périodes où rien ne va de soi, je crois. Où on questionne tout. Tout pose question. Tout pose potentiellement colère, etc. Et c'est ça qu'elle est venue attraper, mettre en forme avec ce texte. C'est un texte qui interroge l'ordre, je crois, social.
Est-ce que ça vous arrive souvent, ce genre d'émotion à la lecture d'un texte?
Non, quand même, non, pas si souvent. Après, c'est pas les seules sortes d'émotions qu'on peut avoir en tant que lecteur.
Ni chercher, d'ailleurs.
Mais c'est une sorte d'émotion qui m'a peut-être rappelé ce que j'avais éprouvé, par exemple, en lisant Mars de Fritz Horn. Avec l'impression, dès les premières lignes, en fait, qu'on vous regarde dans les yeux et que là, quelque chose va être dit de très important, de très urgent.
Vous pouvez rappeler en deux mots en quoi consiste ce texte?
Ouais. Mars de Fritz Horn, c'est un texte donc, que Fritz Horn, l'auteur, écrit alors qu'il apprend qu'il a le cancer. Il est malade, il va mourir, et à ce moment-là, en fait, il considère que sa maladie est imputable à l'éducation qu'il a reçue, à l'éducation de la haute bourgeoisie suisse qu'il a reçue. Et il va écrire avec rage contre cette éducation. Mais ce qui m'a fait penser, je pense, c'est aussi le mélange de classicisme de l'écriture et de rage. C'est-à-dire une écriture plutôt classique, plutôt tenue, des gens qui ont lu et qui, voilà. Et tout ça au service vraiment d'une colère lancée, mais vraiment comme une flèche. Ça m'a aussi rappelé un petit livre, j'arrête là après, mais c'est un petit
non,
livre.
Non, surtout pas, on est là pour ça.
Qui s'appelle Laissez-moi de Marcel Sauvageau. Et c'est, alors, c'est pareil, c'est un tout petit texte qui a été réédité en 2022, je crois, récemment, mais c'est le même genre de texte, et c'est d'ailleurs le même genre d'autrice et d'auteur avec Fritz Horn, d'un seul livre. Un seul livre ardent, urgent, qui vraiment, alors là, les auditeurs ne voient pas, mais je n'arrive pas de faire un geste de flèche. Oui, de flèche. Oui, parce que vraiment, l'impression
Sauvageau, c'est vraiment un livre amoureux, c'est vraiment dans le souvenir que ça m'a laissé, en effet, c'est quelque chose qui est
d'un âge
un tout petit peu plus avancé, on va dire.
1934, Marcel Sauvageau. Donc
mais elle, son âge, c'est plus une femme, on va dire, qu'une toute jeune fille, dans le souvenir.
Oui, en fait, là, on aurait un peu les trois âges, c'est-à-dire 18 ans pour Christine Pawlowska, Fritz Horn, c'est la trentaine, et puis Marcel, je ne sais plus exactement quel âge elle a, Sauvageau, mais voilà, là, c'est un texte de maladie, Sauvageau aussi, mais en tous les cas, quand j'ai commencé Christine Pawlowska, je me suis dit, tiens, ça rentre dans cette catégorie de textes qui urgent, lancé, qui vous regardent dans les yeux et qui ne vont pas vous lâcher, quoi, après que vous les ayez lus.
Moi, j'ai beaucoup pensé à Rimbaud aussi, à Violette le Duc, à des. En effet, ça vient en tout cas. Ce qui est très beau, c'est que ça vient directement se placer dans une constellation. En effet, c'est à un certain étage, on va dire, de notre bibliothèque. Alors, vous racontez, Pierre Boisson, la découverte de ce texte-là. Est-ce que vous voulez bien nous le re-raconter? C'est l'ouverture de Flamme, Volcan, Tempête. Mais je pense que c'est une scène importante parce que vous en faites un tableau et que ce n'est pas anodin, je trouve, dans la manière dont ensuite vous allez vous déplacer à la rencontre de cette femme.
J'ai longtemps essayé de commencer par autre chose, ce récit. Et puis, finalement, j'y suis revenu justement parce que, en fait, toute la source de mon enquête prend naissance dans ce moment-là. Et c'est un moment dont je me rappelle aussi, c'est-à-dire le moment où j'ouvre Écarlate. Je me rappelle encore de la lumière qu'il y a dans le salon, de la bibliothèque dans laquelle je le prends, effectivement, de ma fille qui est dans mes bras, mais même du fauteuil dans lequel je suis assis. Parce que dès que je l'ouvre, je sens qu'il se passe quelque chose. Je suis pris et happé par le texte. Et je sens que je vais pas oublier ce livre. Je sais pas pourquoi encore exactement.
C'est il y a quelques années.
C'était à l'été 2022, donc c'était il y a 3 ans. Et ce que je ne raconte pas dans le livre, c'est que souvent, enfin même tout le temps, je compte le nombre de livres que je lis tous les ans pour chaque année essayer d'en lire un de plus, qui n'est pas réellement uniquement une compétition contre moi-même, mais qui est aussi une incitation à la lecture et une manière de les comptabiliser, de me rappeler à quel moment j'ai lu quel livre dans ma vie. Avant, pendant longtemps, je classais ma bibliothèque comme ça, de manière chronologique.
De l'ordre d'apparition dans votre vie.
Qui me permettait de lier un livre à un moment de ma vie. Bref, j'ouvre Écarlate pour ça, parce qu'il est court, en fait. Parce qu'il est court et que je vais pouvoir, cette année-là, rajouter un livre de plus dans une année où je suis un piètre lecteur parce que j'ai une petite fille et que je lis peu. Donc j'ouvre Écarlate par coïncidence, c'est-à-dire que je ne le choisis pas, personne ne me le conseille, je tombe dessus, ou plutôt il me tombe dessus. Et je suis happé par le texte. Je pense ce que Blandine disait est très juste et je ressens la même chose, je ressens la violence, la rage avec laquelle il est écrit. J'ai l'impression, moi, de découvrir quelque chose d'un peu nouveau. Je le compare pas tout de suite à un autre texte, mais j'ai l'impression d'entendre une voix. Moi, c'est pas vraiment quelque chose qui me regarde, mais quelque chose qui me parle à l'oreille. J'ai l'impression de connaître tout de suite cette personne qui écrit Écarlate. C'est-à-dire que cette Christine, qui est aussi la narratrice, me souffle à l'oreille. Et elle me souffle assez violemment à l'oreille. Et ce qu'elle raconte, j'ai l'impression de l'avoir lu nulle part de cette manière-là, avec ce langage-là.
Ni même ressenti ? Parce que dans ce que disait Blandine Rincal, au contraire, j'avais l'impression que ça se branchait à quelque chose qui pouvait être une vibration ressenti, enfin quelque chose qui pouvait vous appeler à vous-même.
Vous dites une forme de vibration, même, je dirais, moi, qui m'a emmenée vers la littérature, en espérant la retrouver, quoi. C'est très rare de la retrouver, en fait, cette sorte de vibration.
Alors que vous avez l'impression de quelque chose qui vous est d'abord étranger, Pierre Boisson.
C'est un mélange des deux, en fait. J'ai l'impression que l'émotion que ça me procure, c'est quelque chose que je recherche dans les livres que je lis, toujours, mais que le récit et la manière et la langue avec laquelle c'est dit est quelque chose de nouveau pour moi. En partie parce que le contraste qui existe entre, je trouve, le romantisme et le lyrisme du texte, qui est un texte adolescent écrit par une jeune femme, contraste violemment, d'après moi, avec l'espèce de sincérité et de complexité avec laquelle sont adressées des choses aussi complexes que le rapport à Dieu, les rapports mère-fille, les drames de l'adolescence. J'ai l'impression qu'elle l'écrit comme si elle avait 65 ans. C'est comme si elle avait vécu 4 vies derrière elle. Et il y a et ça va avec le langage qui
sa
est
lucidité,
dans
Écarlate.
Sa lucidité, la lucidité avec laquelle elle voit et elle détricote son adolescence. Et ça va avec l'écriture que je trouve à la fois effectivement un peu datée, c'est à l'imparfait, etc. Mais aussi d'une modernité incroyable dans le rythme. Il y a des espèces de vérités générales qui sont adressées au milieu du texte. C'est un texte court, mais une des phrases pour moi qui symbolise ça, Christine Pavlovska écrit « J'avais conscience que seul ce qui est sacré peut être bafoué. » Quand je lis ça, j'ai tout de suite envie de corner la page et puis je la relis une, deux, trois fois. J'ai l'impression de lire de la poésie, en fait. Et je me dis qu'il y a quelque chose de là qui est nouveau. J'ai jamais lu.
Le texte, il commence comme ça. Jamais, jamais je ne deviendrai adulte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Jamais je ne deviendrai comme ces écrasantes grandes personnes qui oppressaient mon enfance par la sécheresse de leur raisonnement. Et puis, avoir tant et tant aimé, cela rend tout petit. En fermant les yeux, je regarde mon cœur, là où sont mes stigmates d'amour, et je me dis, ceci est ma lumière, et nul ne peut me la prendre. Jamais je ne deviendrai adulte. Et elle continue sur une espèce de litanie comme ça de gens qu'elle a aimés. Et le texte se termine. Bon, j'y vais, hein, tant pis. De toute façon, c'est un texte qui doit se lire et se relire. Où elle dit « Elle s'en fut définitivement, me laissant pour toujours le sentiment de mon incroyable vulnérabilité et pour toujours aussi la douleur d'offrir la mer à boire à qui n'a de soif que pour un verre d'eau. » Ça veut dire aussi que ce livre-là, Écarlate, quand vous l'ouvrez, Pierre Boisson, il est d'emblée placé dans une dimension qui est presque christique aussi. Ceci est ma lumière. Enfin, il y a quelque chose qui est très dans un au-delà de simplement raconter son adolescence, quoi.
C'est un texte très mystique, je trouve, dans la manière dont elle interroge sa relation aux autres. C'est la narratrice aime aller dans les églises pour se recueillir, et je pense qu'elle est imprégnée de la nécessité d'avoir quelque chose, de croire en quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est pas simplement dans la religion qu'elle le trouve, mais c'est aussi dans l'amour. Et dans son appréhension de la vie. Elle le dit à plusieurs reprises, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre des émotions modérées. Elle veut simplement vivre très très fort ou alors très très bas. Elle veut souffrir et elle veut être très heureuse. Mais elle a l'impression que dans la modération, il n'y a que mensonge.
Et renoncement.
Et renoncement. Mmh. Et donc c'est jamais jamais je ne deviendrai adulte. C'est en filigrane. C'est jamais jamais je ne deviendrai raisonnable. Mmh. Et jamais, jamais, je ne contrôlerai mes affects. Et ça, ce serait un renoncement. Et d'ailleurs, toute l'histoire d'Écarlate est une histoire avec Mélie, sa meilleure amie, une histoire d'amitié amoureuse. Et qu'elle vit intensément, qu'elle vit avec la plus grande passion du monde. Et sans rien révéler, mais à la fin d'Écarlate, Mélie choisit l'autre voie que Christine. Mmh. C'est-à-dire que Mélie décide de devenir une adulte, elle décide de devenir raisonnable, elle décide de prendre un homme, un amant, de suivre la vie qu'on attend d'elle, de suivre le chemin qui est celui de tout le monde. Et à partir du moment où Christine la voit suivre ce chemin, elle n'existe plus. Elle dit « Non mais je ne pourrais pas la reconnaître si elle était de l'autre côté de la rue. Elle ne comprend pas qu'on puisse la trahir à ce point. » Et elle décide de rester totalement fidèle à son âme adolescente.
Est-ce que c'est en ça que vous dites « Oui, on pourra dire que c'est un texte candide, Blandine Rinkel ?»
Bah oui, parce que c'est facile de railler qui parle au premier degré, qui questionne l'ordre, etc. Enfin, c'est justement l'ordre a presque pour fonction de railler
ça.
Donc oui, bien sûr, il y a une forme de candeur, mais c'est intéressant, par exemple, ce qu'elle retient de la religion catholique, parce qu'en effet, il est question de Dieu, mais elle, ce qu'elle retient, ce qui l'intéresse, c'est pas l'Ancien Testament, c'est la figure de Jésus, et c'est la figure, en fait, révolutionnaire de Jésus. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut oublier, qu'il y a une part, en fait, d'ardeur révolutionnaire, y compris dans les religions, et que c'est, en fait, ensuite ce qu'on fait socialement de ça qui se... Oui, c'est une manière de tamiser, où on cherche à se rassurer, où donc on gomme un peu la part révolutionnaire.
Et sanglante, hein, parce que
en parlant de
cette figure-là. Je pense que c'est ça, un aspect quand même, d'un point de vue littéraire, qui est extraordinairement intéressant, c'est comment ça sourd toutes ces images-là christiques, mystiques, sous un texte qui pourrait paraître être juste, je vais vous raconter mes 12 à 16 ans. Par exemple, elle dit, je voudrais être enfin une blessure et saigner par là. Il y a vraiment quelque chose même du sacrificiel qui existe dans ce texte-là. Qui est assez... Là, je vous rejoins, Pierre Boisson. Enfin, on pense sinon à d'autres figures comme Étienne Lissoum, enfin, ou même à Simone Veil, par exemple, à la philosophe Simone Veil, où la question christique, elle est très très proche de la question mystique ou de l'engagement politique ou de l'engagement poétique. Mais je vous ai coupé.
Non, la mort, j'allais dire, oui, c'est vrai que la mort est très présente dans ce texte. Pourtant, un texte de jeunesse, et la mort, enfin, donc moi j'ai compté dans le texte, peut-être que j'en ai oublié, mais j'en ai compté 43 occurrences du mot mort, mortel, et c'est dérivé. Et c'est quand même beaucoup dans un texte écrit par une jeune femme de 18 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un sens du tragique très très élevé, et qu'à ce sens du tragique, ça colle un sens de la vie, quoi. Parce que justement la mort nous guette, parce que les choses peuvent finir, etc.
La réponse à la grande vitalité, quoi.
Voilà. L'ardeur ou rien.
Elle a 22 ans en 1974 lorsqu'elle répond à Claude Roland Manuel. C'est sur France Culture et vous commentez cette archive dans votre livre, Pierre Boisson.
Vous êtes un écrivain et vous ne vous en rendiez pas compte.
Moi, je ne m'étais pas posé la question.
L'accueil qui a été réservé à votre livre auquel vous ne vous attendiez pas, quel effet ça fait?
Ça m'a fait dans l'ensemble plaisir, mais j'ai été assez étonnée de ne pas retrouver ce que j'avais fait dans l'opinion des autres. J'ai quelquefois retrouvé quelque chose de tout à fait différent. Mes proches, enfin ceux de ma famille dont je parle dans le livre, ça a été très, très mitigé. Puis dans la presse, ça m'a fait plaisir.
Est-ce que ça vous effraye, le succès que vous avez
eu ? D'abord, on ne peut pas parler d'un énorme succès, premièrement. Puis ensuite, non, ça ne m'effraie pas du tout.
Le seul fait d'être publié, je dois dire... risque de transformer votre plume dans la mesure où vous continuez à écrire.
Non, il ne me semble pas. Non, parce que j'ai continué d'écrire depuis que ce livre a été publié. J'ai pas du tout l'impression que...
Vous vous sentez loin de ce que vous décrivez dans votre livre?
Non, pas du tout.
Je suis impressionné par la manière dont vous avez les moyens de restituer une atmosphère d'adolescence alors que vous êtes très près de l'adolescence, mais que précisément, vous devez vous en sentir par conséquent très loin.
Moi, je l'ai écrit à 20 ans tout de même, il y a déjà...
Vous l'avez écrit à 20 ans.
Deux ans qu'il a été écrit, oui.
Et vous vous sentiez une sorte de recul, vous ne sentiez pas de recul, vous vous sentiez à même la matière dont vous parliez de vous-même dans
oui,
ce livre.
Oui, j'avais besoin de l'exprimer pour mieux le comprendre, pour le démêler.
Il faut tendre l'oreille pour entendre la voix de Christine Pavlovska. Quand est-ce que vous découvrez cette archive et qu'est-ce qu'on peut en dire de cette voix qui répond à la fois sur la pointe des pieds, mais aussi avec, je trouve, une façon d'être assez sûre de la façon dont elle parle à ce producteur de France Culture.
Ça me fait bizarre de la réentendre parce que je l'ai très longtemps cherchée, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver. Et je savais que ça existait, mais je pensais qu'elle était plus disponible ou qu'elle avait été supprimée des archives, qu'on ne la trouvait pas. Et quand je l'ai trouvé, en fait, donc c'est une émission où il y a tout un texte avant. Enfin, c'est une émission qui dure une heure et les 47 premières minutes, si je dis pas de bêtises, sont une lecture à voix haute d'Écarlate. Donc ça prend 47 minutes à lire à voix haute.
Par une comédienne, en effet, on a hésité, mais on s'est dit que...
C'est un peu long.
Non, mais surtout, on s'est dit, faire reparaître un texte, je vous dis vraiment la conversation qu'on a eue, faire reparaître ce texte-là, opportunément aux éditions du Sous-Sol, c'est aussi lui donner une dimension contemporaine, et le faire entendre dans cette archive de 74, c'était éventuellement peut-être empiéter sur la lecture très contemporaine que pourraient en faire nos auditrices, auditeurs, donc on a dit non. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a cette lecture en amont de l'intervention de Christine Pavlovska.
Mais je ne savais pas que Christine Pavlovska allait venir après, ouais. Donc j'étais désespéré en écoutant l'émission, en me disant mais en fait elle n'est pas là, elle ne va jamais parler, c'est simplement une lecture à haute voix. Et quand elle apparaît, justement, pour moi, ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur elle et que j'avais recueilli des témoignages d'amis, j'avais lu ses lettres, mais tout d'un coup elle prenait vie parce que l'entendre, c'était la voir s'animer.
Ça nous parle aussi de la réception, je crois quand même, entendre la voix de cet homme qui est étonné, qui lui demande comment est-ce qu'elle se considère, elle. Il faut dire un mot, Pierre Boisson, en 74, ce texte-là, il est lu, il est apprécié, il a du succès, il est adoubé même par la critique.
Il est adoubé par la critique. Il y a Claude Mauriac qui lui consacre un article dans le Figaro littéraire, une pleine page du Figaro littéraire, qu'il commence ainsi. C'est un chef-d'œuvre du genre. De quel genre? Du genre chef-d'œuvre. C'est une sacrée attaque. Et François Nourricier, qui est le grand critique littéraire de l'époque, lui consacre également un article. Le simple fait que Nourricier s'intéresse à un texte, c'est déjà lui donner une énorme valeur. Et lui, au moment où il découvre, c'est comme ce dont on parlait tout à l'heure, au moment où il découvre Écarlate de Christine Pavlovska, il compare ce moment-là au moment où il a découvert Modiano, au moment où il a découvert Sagan. Il se rappelle des matins pendant lesquels il a découvert ces textes-là. Et ça lui a rappelé ces matins-là. C'est pas rien quand même de dire ça à propos d'une jeune femme qui vient d'écrire un petit texte de 100 pages. Et puis, au moment où je travaillais dessus, j'ai découvert un article de la Nouvelle Revue Française où Marcel Arland parle de ses lectures d'été. Il conseille, il parle de ses discussions avec ses amis, puis il conseille deux débutantes, comme il les appelle, qui sont deux femmes qui ont publié leur premier roman en 74, et l'une est Christine Pavlovska, et l'autre est Annie Ernaux. Et donc au moment où moi je travaille dessus, Annie Ernaux vient d'avoir le prix Nobel de littérature, et forcément la coïncidence des deux... C'est les armoires vides, exactement, ce sont les armoires vides en 74, et la coïncidence des deux me choque profondément, non pas que je considère qu'Annie Ernaux n'aurait pas dû devenir ce qu'elle est, mais pourquoi Annie Ernaux devient prix Nobel de littérature, et pourquoi Christine Pavlovska ne devient pas. Et ça, c'est finalement l'interrogation première que je me fais, et c'est la première question que je m'étais posée en lisant Écarlate, puisque au revers, sur les rabats d'Écarlate, il est écrit par l'éditrice Simone Gallimard que Christine Pavlovska a 22 ans et qu'elle continue d'écrire ce qu'elle vient de dire également à la radio. Et moi, ma première question était celle-ci.
C'est quoi la suite, quoi?
C'est quoi la suite? C'est une question de lecteur. Et aussi, c'était quoi l'avant, quand même? Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, on écrit un livre pareil? Et pourquoi, quand on a écrit un livre pareil, on arrête d'écrire? Et la coïncidence avec Annie Ernaux me rappelle qu'au fond, la question qui doit être celle de mon enquête, c'est celle-ci, c'est la question de l'écriture et du renoncement aussi à l'écriture.
On y viendra à cette enquête dans un instant, mais quand vous entendez cette voix, Blandine Rinkel, archive qui a presque 50 ans, une femme qui écrit et qui répond de l'endroit de sa toute jeunesse à propos de ce qu'elle écrit, vous en faites quoi au regard de ce qu'elle a écrit justement ?
Oui, je ne l'avais pas entendu. En effet, c'est une découverte là. Et ce qui m'amuse, moi, à écouter sa voix, c'est son espèce quand même de manière de se garder et de visiblement n'être pas plus en demande que ça d'appartenir à un milieu. Mmh. Et c'est... Il me semble assez rare quand même. J'imagine qu'être reconnu comme ça par les noms que Pierre Boisson a cités, enfin, et se dire bon bah très bien, mais le monde est vaste.
Et son affaire est à l'écriture, surtout on entend ouais, ça. C'est-à-dire ouais, que ouais. Merci, ça me fait elle, ça ouais. La presse, ça me fait plaisir.
En fait, elle écrit pas pour des raisons sociales, mais ça rejoint ce qu'on sent dans le texte, quoi. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse n'est pas de parvenir, n'est pas de se faire sa place. Enfin, c'est l'impression qu'on a en écoutant Starchive, en tous les cas. Après, je connais pas tout ça, qui elle est devenue, et voilà. Mais il me semble qu'on entend ça. On entend ce qui est même pas tout à fait une timidité, mais qui est un endroit qui est le sien, et elle n'aspire pas forcément à rejoindre une place qu'on lui offrirait. Et je trouve ça assez beau d'être aussi ferme, aussi jeune.
On va écouter un extrait du nouveau disque de Catastrophe, ça s'appelle Télévision. Et on a aimé les éventuels échos d'ailleurs que ça pouvait avoir.
Un visage qui te plaît à la télévision, sa façon parler te rappelle un garçon, plus personne ne regarde la télévision, sauf les soirs où la nuit manque d'inspiration. Tes yeux rouges souvent deviennent incandescents et tu rêves longtemps assis devant. Trois heures du matin à la télévision, on dirait qu'elle nous parle, qu'elle nous prend pour des un soleil ou un feu au centre du salon. Éclairé par le bleu de ta télévision, l'émission te maintient dans un rythme indolent. L'émotion s'est éteinte, mais tu restes pourtant dans.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment reconstituer et écrire la vie de quelqu'un ? C'est une grande question littéraire et c'est celle qui agite votre Book Club aujourd'hui. Quand vous découvrez dans une bibliothèque le petit livre titré « Écarlate » qui paraît en 1974, vous ne savez rien, Pierre Boisson, de son autrice Kristine Pavlovska, de son vrai nom Kujawa, née en 1952 à Alès. La quatrième de couverture, vous l'avez dit tout à l'heure, n'en dit pas plus. Pourtant, c'est bien son aura qui plane sur le texte, qui en fait la tension et l'intérêt. Vous vous lancez dans une enquête, archives médiatiques, interviews de proches et remontez le fil de cette existence qui peut presque s'écrire comme un livre qui n'aurait pas encore paru. Votre livre à vous, c'est « Flammes, volcans, tempêtes », un portrait de Kristine Pavlovska, paru aux éditions du Sous-Sol, éditions qui font reparaître « Écarlate », préfacée par vous, Blandine Raquel. On est donc ensemble pour continuer d'en parler. Et peut-être on va entendre tout de suite Stéphanie, auditrice du Book Club. Elle a lu, Pierre Boisson, votre enquête, elle vous interroge sur le sous-titre du livre.
Bonjour Pierre Boisson. Je suis ravie de vous écouter dans le Book Club que je salue. Je voulais vous dire que j'avais pris un immense plaisir à lire Flamme, Volcan, Tempête. Un plaisir en plus particulier, avec une émotion particulière, parce que c'est un livre que j'ai lu à voix haute à mon compagnon pendant un long trajet en voiture. J'ai été habitée par une urgence de lecture à découvrir cette femme qui est si complexe, à la fois fragile et puissante, qui a traversé la vie comme une étoile filante. On est aussi habité, en plus, en refermant votre livre, par l'urgence d'aller lire Écarlate, vraiment. Flamme, Volcan, Tempête est sous-titré un portrait de Christine Pavlovska et illustré d'ailleurs d'un très joli portrait de femme. Et quand je pense portrait, en fait, j'ai envie d'y associer des verbes. On brosse un portrait, brosser un portrait, dresser, ébaucher, esquisser un portrait. Je trouve que tous ces verbes associés à ce mot, en fait, parlent tout à fait de votre livre. Et j'aimerais beaucoup savoir comment ce sous-titre a été choisi et ce qu'il signifie pour vous. Je vous remercie.
Merci à vous Stéphanie, c'est super que vous lisiez des livres à voix haute pendant les longs trajets de voiture, j'adorerais faire ça, j'ai le mal des transports, c'est impossible pour moi. Pierre Boisson, est-ce que le mot portrait, ça vous oblige à quelque chose? Est-ce que ça vous engage dans un certain projet littéraire et de quel côté?
Je pense que c'est pas un mot qui est venu en premier, c'est plutôt venu après, c'est venu plutôt décrire le travail que j'avais réalisé, qui s'est construit en fait au fil des recherches, c'est-à-dire que je suis parti sans savoir du tout où j'allais. J'ai simplement commencé par essayer de savoir s'il y avait un deuxième livre. Et puis, en essayant de savoir s'il y a un deuxième livre, j'ai essayé de trouver le nom de Christine Pavlovska, puisque j'ai appris que c'était pas son vrai nom. J'ai appris que c'était Kujava. Enfin, j'ai appris que
Prononçait
Kujava, mais je ne le savais pas non plus. Je disais pareil Kujawa, parce que je pense, mais en polonais, ça se dit Kujava, etc. Et puis, en fait, c'est un processus de reconstruction d'une vie qui n'est pas une biographie, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'échappent en réalité. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur Christine Pavlovska ou sur Christine Kujava. Et il y avait un côté plus chercheur d'or au détective, ce que je dis un moment dans le livre, mais c'est parce que ce que je ressentais, c'est que j'avais l'impression d'être dans le vide et que chaque petite pièce que je pouvais trouver était comme un trésor et amenait une nouvelle compréhension de qui avait été Christine.
Oui, c'est ce que j'ai. En fait, votre question, c'est qui est cette femme?
Ma question, c'est pourquoi elle a arrêté d'écrire. Et puis, en fait, il y a plein de questions qui viennent se surimposer à ça au fur et à mesure de mon enquête. Et il y a des moteurs qui sont différents. Un premier moteur a été, est-ce qu'il n'y a pas un manuscrit secret, un manuscrit caché, un manuscrit qu'il y a encore à découvrir? Parce que, comme elle l'a dit à la radio, mais comme elle le dit dans des lettres à Simone Gallimard que
elle
j'ai retrouvées, elle dit qu'elle écrit, et elle dit qu'elle est en train d'écrire, et elle lui promet un deuxième livre. Et après, son fils me dit qu'il y a un deuxième livre qu'il a lu. Et donc, moi, je recherche l'existence de ce texte, et je me dis que je vais le découvrir. Donc ça, c'est un moteur. Après, je recherche Mélie, son ancienne amie, et en pensant que elle est peut-être toujours vivante et que elle va m'apporter des réponses sur son enfance et sur pourquoi elle a écrit ce texte. Et puis en cherchant Mélie, je trouve d'autres amis. Et voilà. Et par évolution comme ça, je rencontre pas mal de gens et ça devient un portrait parce que je dirais qu'à force de croiser des regards différents sur Christine Pavlovska, je commence à me faire une vision kaléidoscopique d'elle. Et en la regardant de devant, de derrière, de côté, j'ai l'impression qu'elle commence à prendre forme, comme un peu comme si on reconstruisait une image en 3D. Et c'est simplement en entendant la diversité de points de vue sur elle qu'elle commence à j'arrive à la saisir, parce que c'est aussi un des préceptes que je me suis donné, c'est de jamais croire que je pouvais savoir qui elle était, et surtout ne jamais croire que je pouvait savoir à sa place ce qu'elle ressentait. Ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je trouve que ça fait partie de l'exercice du portrait, c'est de ne pas penser qu'on est capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. D'autant plus quand c'est quelqu'un qui est aussi loin de nous. Moi, je suis un homme, c'est une femme, c'est une poétesse, je ne suis pas un poète. Il y a plein de choses qui font que je pense ne pas pouvoir parler à la place de Christine Pavlovska. Donc, j'ai simplement croisé le plus de points de vue et recueilli la matière la plus importantes sur elle pour ensuite raconter son histoire.
Et qu'est-ce qui apparaît, Pierre Boisson, à la fin ? Stéphanie, elle parle de ce tableau qui est mis comme ça, cette image en couverture. Qu'est-ce qui apparaît à la fin de ce livre qui est certes tout ce que vous avez dit, mais qui est quand même aussi autre chose, c'est-à-dire que vous produisez un texte par la voix multiple de plusieurs personnes qui vous parlent de cette femme, sur une femme qui écrit, mais pas n'importe quand, au début des années 70, sur une femme qui subit des violences sexuelles, sur une femme qui vit sous emprise d'un certain amour, qui ne veut pas... Enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous produisez comme image ?
Moi, j'ai l'impression que la vérité de Christine Pavlovska, celle à laquelle j'accède au bout d'un moment, c'est que Christine Pavlovska n'a pas été une écrivaine, mais que ça a été une poétesse. Et même si elle n'a pas écrit de son livre et un roman, mais ça a été une poétesse dans le sens...
Ah, vous reproduisez des poèmes dans votre
livre. Et en fait, je trouve des poèmes qu'elle a écrits, et je me rends compte qu'elle a écrit des poèmes toute sa vie, mais que ça a été une poétesse à un sens plus large que simplement le fait qu'elle ait écrit des poèmes, mais qu'elle a vécu sa vie comme une poète. Tout à l'heure, on parlait de mysticisme et de sa relation à quelque chose qui nous est supérieur. Et dernièrement, maintenant je vois Christine Pavlovska partout, mais dans le dernier livre de Javier Cercas, où il explore cette dimension, il parle du lien qui existe entre la foi et la poésie. Et ça m'a paru très juste à propos de Christine Pavlovska, c'est-à-dire que pour avoir la foi, il faut s'ouvrir suffisamment, il faut avoir un don de soi qui se rapproche du don d'amour que fait Jésus, dont parle aussi Christine Pavlovska, et que pour écrire de la poésie et pour ressentir la poésie, il faut être également capable de ce même don. Et j'ai l'impression que s'ouvrir aux émotions, accepter de les vivre comme elle nous dit qu'elle les vit dans Écarlate, c'est un geste de poétesse et c'est un geste de foi, et j'ai l'impression que c'est ça la vérité de Christine. C'est l'une des vérités de Christine Pavlovska.
Blandine Rinkel, dans votre préface, vous mentionnez Sylvia Plath. On parlait tout à l'heure de constellation littéraire. Bon, c'est une grande figure de la poésie, Sylvia Plath. Est-ce que pour vous, quand vous refermez Écarlate, vous vous demandez qui est Christine Pavlovska ? Est-ce que c'est une des questions que vous vous posez ?
Oui, et je pense que quand je referme Écarlate, moi, ce qui me reste, c'est l'impression qu'elle a quand même été empêchée ou amoindrie ou écrasée aussi par les circonstances, par peut-être son environnement, par peut-être des idées de la famille qu'elle se faisait ou qui régnait à cette époque-là, qui règne peut-être toujours aussi aujourd'hui.
Parce qu'elle a peur de ce qui l'attend. On en viendra peut-être à la très belle manière dont vous réussissez à tourner autour d'un cœur ardent, silencieux, secret, peut-être noir, dont vous soupçonnez que le texte est écrit autour sans qu'il ne le révèle jamais, ce que vous faites vous, Pierre Boisson. Mais en revanche, pour poursuivre dans ce que vous dites, c'est que, et éventuellement dans une époque, c'est que elle a 20 ans et qu'elle flippe de ce qui l'attend, qui
est
en tant que femme.
Ouais, je pense que c'est vraiment. Enfin, moi, c'est une chose que j'ai vraiment retenue de ce livre-là, et c'est vrai que ce livre-là, le livre de Pierre Boisson, je le mets en écho avec un livre qui est paru en cette rentrée, qui est Comment torpiller l'écriture des femmes, enfin qui est traduit pour la première fois,
ouais.
De Johanna Russe, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que ça pose cette question aussi de la responsabilité. Ça pose la question, hein, je ne dis pas que ça y répond, mais ça pose la question aussi de la responsabilité de la société dans cet écrasement d'une voix si ardente, prometteuse, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui comment se fait-il que ça n'ait pas été possible, que quelque chose se soit quel est le mot que je cherche ? Je décris quelque chose qui se replie sur soi-même, qui s'éteint. Oui, est-ce que ça vient d'elle ? Est-ce que ce repli, cette extinction, peut-être cette petite mortification, en tous les cas, du texte, de la langue, on n'a pas eu de suite. Est-ce que ça vient d'elle ? Est-ce que ça vient de quelque chose autour qui l'aurait écrasé, qui l'aurait contraint ? Dans le livre de Pierre Boisson, je pense qu'on a plein de pistes. Il ne tranche pas. Mais chacun en garde ce qu'il en garde. Et c'est vrai que moi, après avoir lu le livre de Pierre Boisson, je me promenais dans la rue et je regardais, c'était drôle, c'est drôle, les livres parfois font vraiment que vous vous prenez dans la rue et vous voyez autre chose dans les regards, dans les visages. Et je voyais certaines femmes et certains hommes aussi que je sentais... quand même écrasée sous des impératifs économiques, sociaux, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce...
Où est leur part écarlate ?
Voilà, exactement. Exactement.
Mais comme vous le disiez, c'est un livre qui, de toute façon, pour qui a le courage de se poser la question, renvoie à chacun, chacune, la question, où est ta part écarlate ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Cette femme-là, manifestement, en a fait un livre, et puis elle a été empêchée d'en faire autre chose, mais elle nous adresse par-delà les dizaines et les dizaines d'années, grâce à la republication, cette question-là. On écoute une archive d'Hélène Cixous, c'est sensiblement à la même époque, on est en 1975, et elle vient de faire paraître un grand livre très important qui s'appelle Le Rire de la Méduse, où elle pense une écriture féminine, donc il faut bien entendre cette archive-là. Voilà, 1975.
De même qu'une femme n'est pas un homme, enfin qu'elle ne jouit pas de la même manière, que son corps n'est pas un corps d'homme, qu'elle ne désire pas sur le même mode, de même l'écriture fait passer ça. Et l'écriture, c'est le lieu évidemment le plus généreux pour toute manifestation de l'inconscient. La part de l'inconscient dans la vie quotidienne est très réduite, alors que dans l'écriture elle est illimitée. Et dans l'écriture, vous voyez passer à ce moment-là tout ce qu'il y a justement de pulsions, de formes d'énergie ou d'énergie se précipitant dans des formes féminines. Et ça n'a que peu à voir avec ce qu'un homme ferait passer. Les fantasmes des femmes ne sont pas des fantasmes comparables à ceux que font passer les hommes. Le mode même, je dirais, la longueur des phrases, l'organisation des phrases, la... Le tri que l'on fait au niveau du choix des mots, toute la respiration d'une écriture est entièrement différente quand c'est une femme et quand c'est un homme.
Il n'est pas un seul visage que je n'ai aimé au moins une fois. Pas un seul jour où je ne me sois donné toute âme, corps et douleur. Et... je ne veux être femme, ni mesure, ni sagesse, mais jaillissement déchiré, tout entière à mon cri, tout au bout de mon souffle. Et ce n'est pas ma faute si je suis plus loin de moi que mon corps, si je suis aussi loin de mes yeux que la portée la plus lointaine de mon regard, aussi loin de mon oreille que les musiques que j'entends, si je suis l'espace qui me couvre. Je ne suis que cri et violence du cri. Je ne suis que désir d'adoration. Moi, j'avais bien souvent contemplé mon corps dans les miroirs. Je m'étais bien souvent étonné que cette forme de chair au contour précis et symétrique pût contenir tant d'effrayantes puissances. J'aurais préféré une apparence à la mesure de mon délire, à la mesure de la folie. J'aurais voulu être flamme, volcan, tempête. Mais je suis flamme, tempête, volcan, et... j'ai mal de ce que mon corps ne me suit pas.
Finalement, ce sont deux voix qui ont 50 ans, l'archive d'Hélène Cixous 1975 et le texte de Christine Pavlovska qui paraît en 1974. Et vous mentionnez aussi, je pense que c'est assez important de le redire, Pierre Boisson, la parution en 1974 des Armoires vides de Annie Ernaux. Un peu plus tôt dans l'archive de 1975, Hélène Cixous prévoit un temps qui s'ouvre. Elle dit « va arriver un temps où les femmes vont écrire depuis leur endroit de femme et quelque chose de nouveau ». Va s'exercer dans la littérature. Je pense que cette phrase-là qui dit « mon corps ne me suit pas » est une façon de décrire quelque chose du féminin. Donc évidemment, on est 50 ans plus tard, donc la question n'est évidemment pas d'essentialiser quoi que ce soit, mais de parler d'une expérience. Et il me semble que Écarlate a aussi cette vertu-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous y avez lu, Blandine Rinkel ? L'idée de pouvoir parler en précision... de manière ambivalente, antagoniste, etc., du rapport au corps qu'entretient cette femme avec elle-même.
Et d'un désir qui serait féminin.
Mmh.
La question se pose. moi, la phrase qui clôturait la lecture, Mon corps ne me suit pas.
Allez.
Je l'entends aussi, moi, comme un. Vous savez, comme les bateaux enfermés dans les bouteilles, là.
Ouais.
Les c'est-à-dire l'idée d'absolu qu'on peut héberger, mais il y a quelque chose qui est... on est trop petit pour cette idée d'absolu, mmh. Et c'est comme si on était la bouteille qui enferme ce bateau. Quoi.
Ça parle très bien, ouais.
Ouais, je sais pas si c'est propre aux femmes d'éprouver ça, mais...
Mais il y a quelque chose où, quand elle dit, par exemple, Il me semble que c'est aussi un texte qui questionne la condition de femme. Alors, on l'a dit, la condition sociale réservée aux femmes à ce moment-là. Mais aussi, la manière qu'elle a de dialoguer presque avec ce mot-là, quoi. Femme, je veux, mais je veux pas. Et puis, qu'est-ce que ça voudrait dire vouloir être femme? Et qu'est-ce que ça me laisserait comme opportunité? Et qu'est-ce que je ferais de mon corps? Et qu'est-ce que je ferais de mon désir?
Oui, oui. Et puis,
ça la questionne.
Ça la questionne. Et le rapport à sa mère, je pense, et nous raconte quelque chose de... Donc, elle a le rapport à sa mère dans le texte, c'est un rapport à la fois plein d'amour et de haine et de volonté de lui faire violence pour la réveiller. Mmh. Presque pour être reconnue par sa mère, il faut qu'elle lui fasse violence. Absolument. Il y a un peu cette idée-là. Mmh. Et je crois que c'est aussi un rapport à l'idée de la femme. On sent bien que ça, c'est très ambivalent, quoi. À la fois, ça serait plus simple de se départir du fait d'être femme, et en même temps, être femme, c'est contenir, une sorte de désir infini. Enfin, ouais, c'est très ambivalent.
Oui, elle dit, je me regarde dans le miroir et je suis très étonnée que cette masse-là abrite tant de puissance. Il me semble que la manière dont elle peut écrire sa propre violence, y compris la violence d'elle quand elle était adolescente, et puis la part, sombre, torve de son, de l'élan, d'amour violent qu'elle peut aussi avoir à l'égard de son frère. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est très honnête. Vous parliez de sa lucidité, Pierre Boisson, mais c'est une façon de décrire l'endroit où elle se trouve qui est très ouvert.
Ouais, et puis c'est drôle à quel point c'est du côté des femmes qu'est la puissance à chaque fois. Ouais. Son amie aussi, Mélie. Mélanie, ouais. Sa mère. Enfin, c'est vrai que c'est les totems de puissance sont des femmes dans son livre.
Et il me semble que quand même dans cette époque-là où les choses se mettent peut-être à bouger pour la possibilité qu'ont les femmes de publier différemment, c'est intéressant. Pierre Boisson, je reviens à la scène initiale de votre enquête. Vous tenez une fille, une bébé-fille dans vos bras. Et je pense que c'est pas anodin que vous en reveniez finalement quand même à cette scène inaugurale de la découverte d'Écarlate. C'est que tenir une petite bébé-fille dans ses bras, c'est quand même se voir adresser à soi-même ce que ça va être peut-être qu'une femme.
Totalement. J'ai l'impression.
Grande question.
Non, mais grande question, mais qui m'a travaillé sans que je l'adresse forcément directement dans Flamme volcan tempête, mais qui m'a travaillé et qui, je pense, a fait que j'ai été aussi ému également par Écarlate. J'ai eu l'impression de, c'est comme voir tout d'un coup une autre partie du monde, en fait. Et des romans sur l'adolescence écrits par des hommes, j'en ai déjà lu plein, et dont des excellents. Mais c'est une voix que j'ai déjà entendue et
là vous accédez à quelque chose de nouveau.
Là j'ai l'impression d'accéder à quelque chose de nouveau et qui m'intéresse d'autant plus que effectivement j'ai une petite fille dans les bras. J'ai eu ça en voyant dernièrement Camille et moi de Noémie Lvovsky, qu'elle a écrit avec Florence Sévos et toutes les deux, romancières, et toutes les deux quand elles l'ont écrit, elles se disaient entre elles, on va enfin pouvoir montrer ce qu'est une bande de filles. Et c'est vrai que en voyant le film, je me suis dit mais j'ai l'impression de voir ce que c'est d'être une adolescente, avec qui on a envie de sortir, ce qu'on se raconte. En fait, on vit quand même les mêmes choses, mais on s'en parle pas de la même façon. C'est pas la même sociabilité, c'est pas le même rapport aux parents. Et j'ai eu sa mère évidemment, etc. Et j'ai l'impression que dans Écarlate, on voyait ça. Et un phénomène auquel je ne m'attendais pas, mais depuis la sortie des deux livres, il y a beaucoup de gens qui, après les rencontres, viennent me voir en me disant « Mais est-ce que tu as déjà lu ça ? Est-ce que tu as déjà lu Albertine Sarrazin ? Est-ce que tu as déjà lu plein d'autrices, Catherine Guérard ?» Et en fait...
Bah aussi, parce que vous terminez sur Virginia Woolf et vous dites aussi combien il a manqué pour les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes hommes, manifestement, et pour tous les autres, des témoignages littéraires, poétiques, ce qu'on veut, de ce que c'est que l'intérieur de la tête, l'intérieur d'un corps, d'une jeune femme, d'une petite fille ou d'une jeune adolescente. Le film dont vous parlez s'appelle Camille Redouble. Et c'est aussi ça que ça ouvre comme nouveau matériau littéraire.
Exactement.
Nouveau, pas nouveau, parce qu'il a 50 ans ce texte, mais manifestement il manque.
C'est comme si on tournait une bibliothèque invisible et que, hop, elle se retournait, tout d'un coup on voit toute une nouvelle bibliothèque qui existait, ou alors qu'on a oublié et qui est nécessaire d'être relue.
Sur cette question-là, dans le dernier cas, je sais pas, je vous voyais acquiescer.
c'est vrai que c'était... Moi je suis née en 1991... Et pourtant, j'avais déjà l'impression que c'était quand même compliqué d'accéder à des textes français écrit par des adolescentes. Moi, je tournais en boucle autour de Virginia Woolf, puis j'ai découvert Sylvia Plath, et en effet, il n'y avait quand même pas mille possibilités. Il y avait Marguerite Duras, mais c'est une autre forme de femme, j'allais dire. Non, mais c'est un autre tempérament.
Oui, 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 c'est une autre forme de femme.
Et c'est vrai que je vois un vrai lien, pour le coup, entre Christine Palofsky et Virginia Woolf. Je sais que les gens sont agacés quand on dit « pour le coup », donc je m'excuse auprès des auditeurs qui seraient agacés de m'entendre dire « pour le coup ». Non, mais je vois un vrai lien, en effet, dans cette écriture un peu aquatique. J'ai l'impression que c'est aussi ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'image là, du bateau dans la bouteille. Il y a quelque chose d'un désir qui, s'il avait une forme, serait une forme aquatique.
Le Book Club continue là-dessus.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et c'est un Book Club qui continue du côté du désir. Comme chaque mardi, l'heure est venue de retrouver Mathilde Wagman qui nous parle de littérature jeunesse à ce micro. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un roman pour adolescents, au pluriel.
Oui, adolescents, adolescentes. Voilà. Je vous parle d'un roman ado, comme on dit, qui est aussi un premier roman. Il s'appelle « À croquer » et signé d'une toute jeune autrice, Anne-Fleur Multon, et apparu dans la collection des éditions Thierry Magnier qui porte ce si joli titre, « L'ardeur ». Une collection présentée en ces termes par l'éditeur, « Lire, oser, fantasmer ». Mais autrement dit, collection qui rassemble des textes qui entendent parler de sexualité, de désir, et ce, en s'adressant aux grands ados, ceux du lycée en gros. J'ai trop rarement parlé de romans pour adolescents ici, et m'en excuse, c'est que souvent, les romans pour ados mettent en scène un narrateur ou une narratrice lui-même adolescent. Et sans prétendre évidemment avoir sur le sujet un regard exhaustif, loin de là, je confesse avoir parfois eu l'impression, à la lecture de certains d'entre eux, que la voix de ces narrateurs sonnait faux, les auteurs veillant à adopter une forme de parler jeune qui sonnait en réalité un peu vieillot. Ce qui saisit au contraire dès les toutes premières lignes du roman d'Anne-Fleur Multon, c'est la justesse de la langue qu'elle invente pour écrire la voix de ses personnages, son héroïne en tout premier lieu, Marie-Maud. Marie-Maud a 16 ans, elle fait sa rentrée au lycée et pendant l'été, tout a changé. Cette année, elle a envie d'être regardée. Alors à la rentrée, elle choisit son look avec soin, une robe blanche et des cuissardes pour faire comme Brigitte Bardot, celle incarnée par Laetitia Casta dans le film Gainsbourg, vie héroïque. Et puis comme la vraie Bardot, celle du mépris, de Godard, film qu'elle voit pour la première fois cette année-là. Le récit s'organise autour de quelques journées, extraites du flux de cette année scolaire, depuis le 2 septembre jusqu'au 21 juin, et l'on va suivre par touches successives la façon dont Marie-Maud découvre le plaisir d'être désirée, au risque de s'y piquer.
Alors vous parlez de la justesse de la langue à inventer, Mathilde, ça tient à quoi ?
Les chapitres ont des airs de poèmes, ils sont rédigés en vers libre, avec beaucoup d'espace entre les lignes, des alinéas, des rimes parfois, et des titres qui sonnent comme des titres de poèmes, en écho peut-être aux poèmes que Marie-Maud aime écrire à ses heures perdues. Les plus émouvants sont ceux qui sont rédigés dans le point de vue de la jeune femme, au plus près de ses sensations et de ses émotions.
Vous disiez aussi que c'est un roman qui fait partie d'une collection, donc L'Ardeur, ce qui sonne vraiment en écho avec le texte qu'on a évoqué aujourd'hui, et qui entend parler de sexualité. Est-ce que cette dimension-là est réussie ? On sait qu'elle n'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile, mais c'est réussi là, car le livre met en avant cette idée à la fois simple et au fond très complexe. Le désir se nourrit du désir de l'autre, voire y trouve sa source. Peut-être même qu'à l'échelle de la vie d'un être humain, tout commence souvent comme ça, l'ivresse d'être regardé. D'où dans le roman, tous ces chapitres qui racontent des renvois de regard en miroir, justement. Marie-Maud cherche le regard de Pierre, d'Aurel ou de son professeur, M. Combert, la regardant. D'où aussi ces chapitres qui reviennent comme des refrains à différents moments du livre, entièrement composés de cette seule mention, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, sans ponctuation et sur plusieurs lignes, les yeux, les yeux, les yeux, et Marie-Maud au milieu, lorsqu'elle a l'impression notamment que tous les regards convergent vers elle, dans un mélange de délices et de terreur. Les belles scènes érotiques du livre se passent en réalité dans sa tête, mention spéciale à celle où elle se rejoue la fameuse scène du mépris de Godard, dans laquelle Brigitte Bardot adresse une litanie de questions à Michel Piccoli, retranscrite en toutes lettres dans l'un des chapitres du livre. « Tu les trouves jolis, mes pieds ? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes ? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi ? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses ? Aussi. » Etc. Chapitre qui ouvre sur une scène d'onanisme qui tranche avec toutes les représentations éculées de la chose en littérature ou au cinéma et transcrit assez justement ce qui dans cette pratique se bouscule de fantasmes mais aussi de pensées de nature diverse, de sensations de son environnement aussi, l'autrice intégrant à son texte les tic-tac de l'horloge de la ferme où elle vit et que la jeune femme entend depuis sa chambre.
On comprend que c'est pas tant le mouvement du récit qui vous a séduit Mathilde que la langue, la construction, le style, on voit même une sorte de mise en page particulière.
Oui absolument, aux événements, aux péripéties de la narration, qui voit Marie-Maude secouée, voire violentée par les hommes qu'elle croise sur sa route cette année-là. Je préfère les toutes petites touches et couches de détails qui composent son univers intérieur ou celui de son amie Lise. Raison pour laquelle j'ai aussi été moins convaincue par le final, qu'évidemment je ne vous dévoilerai pas, mais qui met en scène un agresseur et une résolution heureuse et peut-être un peu plate. N'empêche, le roman que j'ai lu presque d'une traite tient sacrément la route. Je signale en passant qu'il fait partie de la liste des livres en lice pour recevoir le prix Vendredi, qui chaque année distingue un roman pour adolescents. Il sera remis le 4 novembre prochain.
Et vous nous en donnerez des nouvelles.
Bien évidemment.
Oui. Merci beaucoup. Vous nous rappelez le titre ?
Ça s'appelle À croquer. C'est signé Anne-Fleur Multon aux éditions Thierry Magnier.
Et vous, on vous réécoute dans les lectures jeunesse sur franceculture.fr. À la semaine prochaine. À cette heure-ci dans le Book Club, on joue à chercher de la musique dans les livres. Le principe est simple, on vous demande, auditrice ou auditeur, n'importe quel livre que vous ouvrez, dès que vous voyez l'évocation d'un air musical, vous faites une photo de l'extrait, vous l'envoyez à Alexandra Leibegovitch qui s'occupe du compte Instagram de l'émission ou à nous directement lebookclub@radiofrance.com. Nous avons joué avec Écarlate et nous avons trouvé de la musique dedans. Manuel me lança un regard plein de rire sous ses sourcils noirs et noirs. Si noirs étaient ses yeux qu'on n'en voyait pas la pupille. La Niña del Oro, comme il disait si joliment, la petite fille de l'œil. Je veux, dit-il encore, que tu connaisses la Castille, le soleil couchant sur la terre rouge, les cyprès, la llanura et la mysticité qui suint de la solitude. Au fond du bar, un cœur chantait. Il est rouge. Rouge de sang, le cœur du poète imprudent. J'avais mal de tant de lumière au-dedans de moi. J'aurais voulu, oh comme je l'aurais voulu, m'ouvrir comme une blessure immense et saigner enfin toute cette lumière. Mon corps ne me suivait pas, il ne m'a jamais suivi. C'était tragique et merveilleux.
Calme et serein, un poète se tient assis à sa table toute une nuit, griffant de lugubre quatrain.
Poète se tient assis,
entend murmurer qu'il se repaît, l'esprit des pétales fanés d'une rose rouge qui pend. Son pied dans un verre de sang, étrangement calme et serein, un poète me déshabille, crie une rose dans la ville, en se cachant des doigts le sein, un poète étrange manière. D'un petit canif argentin, dans les eaux du dos de sa main, cherche une rime, un vers. Il rêve.
Petite pépite, cette découverte, le poète, et la rose, les enfants terribles. Merci beaucoup, Blandine Rinkel, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous signez la préface de Écarlate de Christine Pavlovska, parue aux éditions du Sous-Sol. Et le groupe Catastrophe sort un nouveau disque qui s'appelle La Proie et l'Ombre et qui vous emmène sur les routes, j'imagine ?
Pas tant.
Voilà, Marie. Voilà. Pas tant. Et qui nous permet exactement de rester chez nous, tranquille, à écouter ce disque.
Voilà. Exactement.
Ou d'écouter la radio. Et parce qu'on rediffusera d'autres musiques, notamment Francky qu'on adore. Voilà, on a tout dit. Merci beaucoup Pierre Boisson d'avoir été avec nous. Flamme, volcan, tempête, un portrait de Christine Pavlovska, livre qui vous emmène sur les routes, non ?
Oui. Pas mal.
On mettra la liste des librairies où on pourra venir vous écouter et éventuellement se faire dédicacer le livre. Au son, c'était Dalia, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, spécialement à Cyril Marchand. Aujourd'hui, on peut poursuivre la conversation sur le compte Insta grâce à Alexandra Leibegovitch.